France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Soyez les bienvenus sur France Musique en ce samedi 10 avril. Je suis très heureuse de vous accueillir. Félix Levaché est à la réalisation, Jean-Frédéric Séric Carrère à la technique. Et nous nous occupons de vos oreilles jusqu'à 9h. De quoi vous faire oublier un instant cette météo un petit peu maussade, on va le dire. D'ailleurs, dès 7h45, la soprano Sandrine Pio viendra ensoleiller notre antenne. Elle partagera un choix musical avec nous. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin ira à la rencontre d'une des plus belles maisons d'opéra en Europe. Concevoir un disque de manière écologique, c'est possible. Sophia Anastasio nous en parlera à 8h15 dans son reportage. Il parlera du disque Malheur intime du trio Georges Sand. Nous recevrons à 8h30 le ténor Sébastien Guèze, auteur d'un rapport baptisé Génération Biopéra ou Comment imaginer l'opéra de demain. Et puis à 8h50, notre rendez-vous avec Christophe Chassol qui rendra hommage à Paul Jackson, bassiste légendaire. Très bon réveil à notre écoute.
Thank you.
Comment résister à ce petit miracle, ce 17e concerto pour piano, Köchel 453, dont nous écoutions le premier mouvement, concerto de Mozart. Eh bien, ne résistons pas. Nous écoutions Maria Joao Pires, l'orchestre de chambre d'Europe et Claudio Abbado à la direction. On va poursuivre ce matin, 7h42 minutes, avec le nouveau disque, un extrait du nouveau disque d'une très, très grande soprano française, l'élégante Sandrine Piau, qui fait paraître chez Alpha l'album Clair Obscur. En partenariat avec France Musique, disque enregistré avec l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Voici tout de suite Morgan de Richard Strauss, lead qui apporte les promesses de l'aube. Sandrine Piau ici aux côtés de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté et Jean-François Verdier à la direction. Nous écoutions Morgan de Richard Strauss. Il est 7h46 minutes. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin sur France Musique la soprano Sandrine Piau. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, très bien. C'est très tôt.
C'est très tôt. Mais voilà, on a un grand plaisir de vous avoir sur les ondes de France Musique ce matin pour évoquer ce magnifique disque qui vient de paraître chez Alpha en partenariat avec France Musique, je vais quand même le souligner. Nouveau disque baptisé Clair Obscur, à peine sorti et qui collectionne, on le comprend, hein, déjà de nombreuses récompenses. Il y a sur le livret de ce très très beau disque une citation de Georges Braque. Le vase donne une forme au vide et la musique au silence. Qu'est-ce que vous entendez par cette phrase? Pourquoi l'avoir choisie pour illustrer ce livret, ce disque?
Oh, je ne sais pas, c'est toujours très difficile d'expliquer une citation qui contourne tellement bien ce qu'on ressent. D'abord, j'ai toujours eu une accroche très visuelle et picturale aux choses. Donc, c'est vrai que je dis parfois que c'est un peu un accident d'être chanteuse parce que j'ai une mémoire visuelle que je pense en couleurs et en gestes, en mouvements plutôt graphiques. Et je trouvais que ça résumait extrêmement bien cette espèce de dualité qu'on a entre l'immobilité, le mouvement, entre le silence et la musique, et entre la non-couleur et le feu d'artifice justement de tous les possibles. Donc ça relie aussi tous les arts. Enfin, finalement, la musique est une chose un peu picturale. Même si certains sont plus attirés par la peinture que par la musique ou le contraire, finalement, je trouve que toutes ces façons de s'exprimer se rejoignent et je pense qu'on recherche toujours la même chose, c'est-à-dire le mouvement, la vie, effectivement capter des ondes ou des fulgurances, des lumières, et que c'est un petit peu ça. Puis ça donne un contour à nos angoisses peut-être aussi.
De cette période traversée, par exemple, Sandrine Piau?
De cette période traversée, entre autres, c'est vrai qu'elle exacerbe peut-être, en tout cas en ce qui me concerne, une certaine vision du monde qui n'a jamais été très très positive. Mais je pense que justement, la musique a été pour moi un moyen de prendre un envol vers des choses qui me semblaient en tout cas plus rayonnantes qu'une destinée humaine, Covid ou pas, puisque on est pour mourir et que finalement... Voilà, on peut avoir une vision très sombre de ce qu'est une destinée humaine et je trouve qu'on a parfois la possibilité, c'est merveilleux, d'échapper au destin par fulgurance, par moment, oui, ce sont des échappées belles et je pense que ça résume un petit peu finalement, toute cette dualité qui fait qu'on veut profiter à tout prix des choses parce qu'on sent qu'elles sont, périssable et c'est tout l'enjeu de notre vie et ce qu'on en fait en musique, en peinture, en architecture, en théâtre, en poésie.
Et en cela, la musique, l'art est essentiel, hein, vous le dites merveilleusement bien, Sandrine Piau sur notre antenne ce matin.
Oh oui.
je savais que bon, on serait d'accord, évidemment. Un disque, à part dans votre discographie, Strauss, Zemlinski, Berg, on a grand plaisir à vous découvrir finalement dans ce nouveau répertoire pour vous, ou bien c'est quelque chose auquel vous pensiez déjà depuis quelques années?
Alors, nouveau répertoire, non, parce que finalement, quand j'étais harpiste au Conservatoire de Paris, je jouais plutôt des musiques plus tardives. Je ne connaissais vraiment pas grand-chose au baroque, voire rien du tout. J'ai eu, comme tout le monde, en tant que spectatrice, le choc d'Attis. Et j'ai eu la chance aussi de, par le biais de rencontres, de me présenter au Conservatoire de Paris dans la classe de William Christie et de rentrer dans les chœurs de Philippe Hervec un petit peu au même moment quand j'étais étudiante. Et donc d'apprendre à la fois un autre métier qui était de chanter et de découvrir une autre musique, un autre style. Donc finalement, Strauss, Berg, Zemlinski faisait davantage partie d'un univers que je connaissais en tout cas mieux. Je ne jouais pas forcément Debussy, j'en ai beaucoup joué. Bon, à la harpe, Debussy, Ravel, mais il y a beaucoup de harpe dans Strauss. Et d'ailleurs, dans ce disque, voilà, il y a une part belle
notamment
à cet instrument, et je voulais quand même saluer le violon magnifique de Mathilde Borsarello.
Et vous le faites bien, vous le faites bien.
Voilà, et Agnès Kébilité à l'harpe, justement. Mais donc ça, c'était plutôt mes amours de jeunesse, justement. Et puis, j'ai eu la vie est pleine de surprises, ce parcours qui m'a entraînée vers des musiques plus anciennes qui me correspondaient très bien vocalement, finalement. Il fallait une voix légère, ductile. J'étais plutôt bonne lectrice par ma formation. Donc, on découvre beaucoup de manuscrits, de choses qui n'ont jamais été enregistrées. Et ça a été, notamment, évidemment, avec William Christie, qui a fait de moi une chanteuse, qui m'a dit « laisse tomber la harpe et puis je ferai toi une chanteuse ». Ce que j'ai un peu hésité à faire, hein, j'avais peur, c'était pas du tout...
Mais vous avez bien fait d'écouter Sandrine Piau,
et
la
voilà,
preuve.
Et bien, je boucle la boucle finalement.
Vous bouclez la boucle exactement avec ce magnifique disque que je vous invite à écouter, chers auditeurs. Clair Obscur, paru chez Alpha, en partenariat avec France Musique. On va écouter votre choix musical. C'est une autre très grande chanteuse française que vous avez choisi de nous faire entendre rapidement. Dites-nous quelques mots de ce choix, Sandrine Piau.
Oh, bah écoutez, effectivement, c'est Véronique Gens, donc un disque qui s'appelle Nuit, et notamment dans une pièce de Ropartz dont j'aime beaucoup le texte. Et je trouve que Véronique allie à la fois la beauté d'une voix noble, et puis c'est une conteuse. Et j'aime la poésie, et quand elle parle, elle m'émeut. Quand elle chante, elle m'émeut. Je trouve qu'elle parle, elle chante, c'est tout est mêlé. Et je lui envie beaucoup sa diction et son phrasé. Et cette mélancolie qu'elle a, qui est toujours en elle aussi, je trouve transparaît même dans des choses plus légères. Et ça donne
des petits miracles, on peut le dire.
Ah oui, je suis toujours très émue par tout ce que fait Véronique, qu'elle soit dans des choses très drôles ou dans des choses comme ici, plus sombres.
Eh bien, nous allons l'écouter. Merci beaucoup, Sandrine Piau, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée, un excellent week-end. Ceux qui parmi les morts d'amour, l'un des quatre poèmes de Guy Ropartz, interprété ici par Véronique Gens et Idjardini, extrait de ce disque paru chez Alpha. C'était le choix musical de la soprano Sandrine Piau qui était avec nous pour évoquer ce très très beau nouveau disque Clair Obscur, paru lui aussi chez Alpha en partenariat avec France Musique. Je vous invite également à réécouter ce concert 100% Vivaldi donné en janvier dernier à l'Auditorium du Louvre à Paris par Sandrine Piau, le concert de la Loge et Julien Chauvin, et puis également les grands entretiens de Sandrine Piau. Tout est à retrouver sur notre site francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Et c'est un disque que je vous offre ce matin d'une autre très très grande chanteuse. Décidément, ce matin on est bien gâtés. Nouvel album baptisé Rebirth de la soprano star Sonia Yoncheva, qui a enregistré avec le chef d'orchestre Leonardo Garcia Larcón cet album qu'ils envisageaient depuis 10 ans. Un disque qui couvre plus de 5 siècles de musique, allant des chansons traditionnelles à la pop, en passant par des airs forts du répertoire opératique du 17e siècle. C'est un disque qui vient de paraître être chez Sony. Pour le remporter, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur Contactez-nous, vous nous laissez vos coordonnées et la bonne réponse à la question qui va suivre. Quelle est la nationalité de Sonia Yoncheva? Est-elle bulgare, belge ou coréenne? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Nos
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique.
Vous êtes auteur, compositeur, interprète?
Vous avez entre 18 et 25 ans?
Participez au concours Chanter 20 ans en 21, organisé par Radio France.
Parce que la création et l'imaginaire sont les plus beaux signes d'espoir.
Parce que la musique et la chanson ont toujours su raconter l'époque.
Partagez le temps d'une chanson originale en français, votre regard sur cette période, mais aussi vos rêves et aspirations.
Toutes les infos pour participer sont sur radiofrance.com.
Avec le soutien de la SACEM.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
France Musique, très bon début de journée à notre écoute. Il est 8h. Et c'est l'heure de la chronique Battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Et vous nous emmenez aujourd'hui dans un lieu que je connais sur le bout des doigts.
Mais oui, en effet, un théâtre où vous avez passé beaucoup de temps et fait beaucoup de musique, le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Vous le connaissez si bien d'ailleurs que j'ai quelques scrupules, de peur de dire des bêtises, et c'est vous qui devriez répondre à mes questions aujourd'hui.
Ne vous inquiétez pas.
Mais pour commencer en musique, voici un extrait d'une archive de 2013, Le songe d'une nuit d'été de Britten.
Merveilleuse production mise en scène par David McVicker, je m'en rappelle encore. Alors, Marc-Olivier, qu'est-ce qui vous semble spécifique dans cette institution qui est par certains côtés comparable à d'autres maisons d'opéra en Europe ?
Alors, la Monnaie est comparable aux meilleures maisons d'opéra dans le monde par sa programmation extraordinaire, dans le choix des œuvres comme celui des chefs, des metteurs en scène et des solistes. Probablement, ce qui la distingue, c'est en partie le fait que ce soit une institution à taille humaine. Le chœur d'adultes, par exemple, est constitué d'un nombre relativement modeste de choristes, une trentaine, mais qui sont non seulement d'excellents chanteurs, mais aussi de très bons comédiens. Les voici dans un fragment d'Elias de Mendelssohn, dirigé par Antonio Pappano.
Et comme vous ne pouvez l'ignorer, la Monnaie forme également de nombreux enfants à la pratique chorale et vocale.
Oui, comme vous, Saskia. L'institution collabore avec un ensemble de près de 10 académies et conservatoires de musique belge qui préparent les jeunes chanteurs au chœur d'enfants de la Monnaie. Puis une fois admis, ils peuvent progresser jusqu'à la formation vocale et les modules d'insertion professionnelle qui constituent un remarquable tremplin vers différents métiers. Vu de l'extérieur, tout semble assez fluide et moins formel que dans certaines institutions qui sont gigantesques. En comparaison avec les grandes usines opératiques du monde, parfois un peu en perte d'âme, on peut dire que la Monnaie répond au critère « small is beautiful ».
Non, je suis bien d'accord. Vous connaissez bien Alain Altinoglu, le directeur musical ?
Oui, c'est un merveilleux musicien, lui-même remarquable pianiste et chef de chant, passionné par la voix et ouvert à tous les répertoires. Retrouvons-le ici avec Rossini et l'orchestre de la Monnaie, accompagnant Eva Zajcik dans une épreuve du concours de la Reine Elisabeth.
« Merci beaucoup Marc-Olivier pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr et puis pour ce petit détour par mon pays natal. Ça me fait grand plaisir, surtout dans les murs de cette institution extraordinaire. J'en ai de merveilleux souvenirs de petites filles en tout cas. Et puis je vous invite, chers auditeurs, à aller faire un tour sur le site, lamonnaie.be. Il y a cette section baptisée MMM Online où vous pouvez voir, revoir des productions. Il y a évidemment en cette période de confinement, de fermeture des salles, des spectacles, des concerts qui sont toujours donnés et qui sont captés avec de merveilleux artistes. Je vous invite donc à aller faire un tour sur ce site lamonnaie.be. Merci beaucoup Marc-Olivier, à la semaine prochaine.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Le scherzo, troisième mouvement de la quatrième symphonie de Tchaïkovski. Nous écoutions ici Antonio Papano à la direction de l'orchestre de l'Académie nationale de Sainte-Cécile. Papano, qui était auparavant directeur musical de l'Opéra de la Monnaie, il fallait quand même que je vous le fasse entendre, qui est devenu depuis lors celui de cet orchestre que nous écoutions à l'instant. Il est aussi directeur musical du Royal Opera House à Londres. C'est un très grand, magnifique chef musicien, pianiste aussi, que j'avais envie d'entendre ce matin avec vous. Allez, un petit mot sur la deuxième édition du Piano Day, diffusée le 29 mars dernier sur les sites d'Arte Concert, festival de piano créé en 2015 à l'initiative du compositeur et pianiste Niels Frahm et qui rassemble les amoureux du piano à l'occasion d'une journée exceptionnelle dédiée à l'instrument. À l'affiche, il y avait Alexandre Kantorov, Sofiane Pamart, Étienne Jomet et Fabrizio Rath, Françoise Breut et Marc Melia, des concerts à revoir sur Arte Concert bien sûr. Il y avait aussi Masha Garibian, pianiste, chanteuse, auteure, compositrice et arrangeuse. Elle remportait en 2020, les victoires du jazz dans la catégorie Révélation. Elle jouait à l'occasion de ce Piano Day son dernier album, Joy Ascension, accompagné du contrebassiste canadien Chris Jennings. En voici un extrait. Georgian Mood de Masha Garibian, extrait de ce concert donné à l'occasion de la deuxième édition du Piano Day. C'est à revoir sur le site d'Arte Concert. 8h et presque 15 minutes, c'est l'heure de notre reportage Malheur intime, Malheur de Gustave Malheur. C'est le titre du nouveau projet du trio Georges Sand, composé de Virginie Busca, Diana Ligeti et Annelise Gastaldi. Un disque, un bel objet qu'elles ont fait paraître sous leur propre label Elstir et qu'elles ont souhaité le plus vert possible. C'est un reportage de Sophia Anastasio.
C'est dans son appartement parisien que nous rencontrons Annelise Gastaldi, pianiste du trio Georges Sand. Sur la table basse du salon, entre deux tasses de café, est posé le disque de couleur verte Malheur intime, enveloppé dans du papier calque. Un papier qui n'est pas anodin, nous explique la pianiste.
Nous avons voulu choisir des matériaux qui soient vraiment dégradables, un disque écologique au mieux, puisque finalement, ce projet est tellement lié à la nature par le compositeur lui-même, Gustave Malheur, que nous voulions nous engouffrer sur ce chemin, et puis pour plein de raisons sociales que chacun connaît, écologiques. Donc nous avons choisi un cartonnage particulier, et puis pas de plastique pour envelopper le disque. Ce qui fait que quand même, tous les disques sortis ont été emballés un par un dans du papier calque, et pas n'importe quel papier calque, un papier calque pour quand même le protéger. Un papier calque, il y a beaucoup d'acide sulfurique, donc c'est dégradable, c'est ce qui se dégrade le mieux, qui pouvait protéger le mieux le disque sans que ce soit du plastique.
L'objet existe tel quel, mais pour ne pas renoncer à la grande distribution, une autre version moins fragile a également été conçue.
Ce papier calque, évidemment, à la FNAC, tous les revendeurs de disques, tous les intermédiaires n'acceptent pas parce que c'est un emballage quand même curieux et fragile. Donc, nous avons dû emballer certains disques destinés à la vente autrement, avec des sortes d'enveloppes les moins nocives, je dirais, possibles pour l'environnement.
Le trio a ainsi passé beaucoup de temps sur l'aspect écologique du projet, mais pas autant que sur la musique, sourit Annelise Gastaldi. Dans ce disque, on trouve entre autres le quatuor de Malheur, mais aussi des transcriptions, l'adagietto de la 5e symphonie pour piano ou encore le thème de la variation de la 4e pour violon et piano. Des créations aussi, notamment une composition de Noriko Baba inspirée du chant de la terre. Comme le disait Annelise Gastaldi, cette démarche résonne directement avec la figure et la vie de Malheur.
Malheur, il a composé dans la nature, puisqu'il allait s'immerger et s'isoler dans sa petite maison, là. Et il s'inspire de la nature, bien évidemment. Il y a une citation célèbre où il dit « Ne regardez pas le paysage, il est tout entier dans ma symphonie ». Bon, il y avait un amour démesuré pour la nature. Et c'est vraiment le compositeur, je pense, le plus proche, enfin, voilà, dans sa musique de la nature.
Il était végétarien aussi, dans Malheur ?
Malheur était végétarien une partie de sa vie, absolument. Avec Nathalie Bouhré-Lechner, d'ailleurs, ils étaient tous les deux en quête de cette nature et de cette écologie qui n'avait peut-être pas ce nom à l'époque, mais qui l'était déjà. La démarche était la même.
Et pour aller plus loin, le trio et son label ont fait un partenariat avec une association des enfants et des arbres.
Elle permet à des collégiens de comprendre, de planter des arbres, d'aller, de rencontrer les agriculteurs, de prendre conscience de tout cela. Et c'est magnifique. Enfin, vraiment, c'est une très, très belle démarche. Et dans le nom même de l'association des enfants et des arbres, on retrouve aussi les enfants. Gustave Malheur, c'est aussi l'enfance, le rapport aux enfants dans les œuvres. C'était aussi quelque chose d'important. Donc, il y avait les deux.
Si le prochain disque ne sera pas lié à la nature dans son contenu, Annelise Gastaldi souhaite tout de même poursuivre cette démarche.
On continuera. Pas de plastique, même si c'est plus compliqué, même si c'est plus coûteux, évidemment. Et je trouve que c'est ce que chacun a à faire, doit faire à son niveau. Même si c'est un petit grain de sable pour chacun, ça fait beaucoup. Et la prise de conscience est déjà en elle-même une chose tellement importante. Tellement importante.
«
Je crois qu'aucun artiste ne souffre autant que le musicien du pouvoir mystique de la nature quand elle s'empare de lui, écrivait Gustav Mahler à Nathalie Bauer-Lechner. Mahler intime, ce sont aussi des textes regroupés dans un livret illustré.
Mahler intime, c'est donc un disque du trio George Sand, disque paru sous le label Elstir, avec également la participation de la soprano Jennifer Tarnier et l'altiste Violaine Desperoux. Merci beaucoup Sophie Anastasio pour ce reportage. Il est 8h20.
Thank you. te clamo, lips et reus, revenite benigno, ire bellas mei. Revenite benigno, ire bellas mei. Sanctis Venus, revenite benignum, ne repellas venit. Et tuis, Sanctis Venus.
Tout début de Membra, Jesu Nostri de Dietrich Buxtehude, extrait du superbe nouveau disque Harmonia Mundi de l'ensemble Correspondance, dont Sébastien Dossé venait nous parler mercredi dernier dans la matinale sur France Musique. L'ensemble Correspondance qui n'est jamais à court hein, quand il est question de propositions intéressantes. De l'occasion de vous rappeler ce matin ce MOOC, cette formation en ligne que vous pouvez suivre en vous inscrivant sur la plateforme edx.org. 8 épisodes pour tout connaître de la musique française du XVIIe siècle. Voyage musical dans la France du XVIIe siècle, c'est son titre et c'est entièrement gratuit. Dépêchez-vous donc de vous y connecter. Et vendredi prochain, c'est Anne Sinclair qui sera l'invitée de la matinale. Et ce, afin d'évoquer le nouveau numéro de l'émission Fauteuil d'orchestre qui sera diffusé vendredi prochain à 20h55 sur France 5 en partenariat avec France Musique. Sur le plateau, notamment la soprano bulgare Sonia Yoncheva, l'orchestre philharmonique de Radio France, Leonardo Garcia Larcon, mais aussi de jeunes artistes, la violoncelliste Astrid Cyranossian et l'accordéoniste Félicien Bru que nous écoutons. Thank you. Valse, extrait de la petite suite française de Richard Galliano. Nous écoutions Félicien Bru, le Quatuor Hermès et Édouard Macarez. Il est 8h30 sur France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Comment pouvons-nous anticiper la prochaine crise et quelle est notre mission pour mettre en place un opéra du futur qui réponde aux enjeux sociaux, écologiques qui se posent aujourd'hui? Eh bien, ce sont les questions auxquelles tente de répondre notre invité ce matin. Bonjour Sébastien Guez.
On m'a dit comme ça, c'est très impressionnant.
C'est bonjour, ambitieux, Saskia. Mais c'est merveilleux.
C'est très ambitieux, oui.
Soyez-le. Vous êtes avant tout ténor, je vais tout de même le dire. Vous êtes ici, eh bien, c'est un autre métier qui s'offre à vous en quelque sorte, ou un projet autre que ce que vous avez l'habitude de faire. Vous êtes l'auteur de ce projet Génération Biopéra. Vous vous définissez comme un artiviste. Quelle définition en feriez-vous de ce mot artiviste?
Disons que je crois qu'on est les artistes sont toujours un peu artivistes d'une certaine manière dans la manière dont ils interprètent les œuvres, dont on les repense, dont on les écrit, les nouveaux récits. Qu'est-ce qu'on fait sur scène? Quelle fiction on raconte pour que le public puisse se projeter et se dire tiens, dans ce contexte, peut-être j'agirais différemment. Et j'ai voulu profiter un petit peu de ce confinement, en tout cas répéter ce temps de pause pour revenir un petit peu avant d'entamer cette carrière. C'est vrai que j'avais fait des études de management, des administrations des entreprises, aussi des choses plus techniques dans les matériaux. Et donc j'ai voulu essayer de revenir un petit peu à comment serait cet opéra du futur qui allait répondre un peu à tous ces enjeux qui commencent à vraiment pointer le bout de leur nez de manière à frapper très très fort, très fortement à la porte.
Et y a-t-il eu un événement qui vous a bousculé ou qui vous a donné envie de passer à l'action, Sébastien Guez?
Je dois dire que il y a eu un premier déclic dans le sens où j'étais à la Fenice pour chanter et une production. Enfin, j'y suis allé plusieurs fois en fait, voilà. Et du coup, plus j'y allais et plus la ville était les pieds dans l'eau. Et je me suis dit quelle responsabilité on a en fait en tant que citoyen avant tout, bon artiste évidemment, mais en tant que citoyen de laisser comme ça s'engloutir l'histoire. Et donc ça a commencé un petit peu à interroger ce questionnement, même si c'était des valeurs qui étaient toujours un petit peu en moi, ça les a accentuées. Et puis la naissance aussi de mon enfant qui a été un déclic supplémentaire dans le sens où je me suis interrogé sur quel monde on allait laisser à nos enfants par rapport à toutes ces urgences de ce monde qui coule et aussi quels enfants on allait laisser à ce monde. Et en ça, je trouvais que c'était intéressant de repenser nos fonctionnements, de les interroger, de les imaginer différemment pour... il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de se dire bon, on n'a peut-être pas tout réussi, mais il est peut-être temps d'essayer de rectifier des choses et puis de provoquer cet élan aussi pour la génération future et de dire, ben, on commence à écrire et puis vous terminerez le dessin.
Mais alors en quoi justement le secteur culturel peut-il être acteur de cette transition écologique?
Ben, c'est un symbole. Alors évidemment, on pourrait dire oui, mais c'est pas le plus gros émetteur des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est un symbole qui est au cœur des villes. En l'occurrence, moi j'ai étudié concrètement l'aspect des opéras, des structures, de ces structures-là. Et comme tout symbole, il rayonne dans la ville de tous ces gens, de tous les citoyens qui passent. Et c'est en ça que je pense qu'on doit être aussi un modèle de montrer ce que va être ce monde désirable en 2050, plus raisonné, peut-être plus décarboné. On a des objectifs qui ont été fixés, c'est pas moi qui le dis, c'est les conventions, les accords de Paris, on doit respecter 2 degrés. Ça veut dire que pour nous, Français, on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre par 4, c'est pas rien. Donc si on est pragmatique, réduire par 4, ça veut dire à quoi on s'attaque concrètement. Et chacun doit faire sa part, et chaque citoyen, et l'opéra aussi, la culture aussi. Et donc concrètement, comment on fait pour réduire par 4?
Alors, au premier confinement, vous avez lancé un premier appel, Sébastien Guez, reprenant justement toutes ces réflexions qui vous ont mené à la rédaction de ce projet Génération Biopéra. Vous avez lancé l'idée d'un label Biopéra. Il faut quoi? Repenser une une production dès les prémices en fait de sa réalisation.
Mais ce qui a été important pour moi, et peut-être on aura l'occasion d'en parler plus tard, c'est vrai que je me suis engagé au sein de plusieurs associations et je me suis rendu compte que parfois, notamment avec une formation sur la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, et je me suis aperçu que on avait tendance, mais un petit peu comme les entreprises, pas forcément à mal, mais en voulant bien faire, c'était parfois ce qu'on surnomme le greenwashing, c'est-à-dire que on se dit qu'en supprimant les gobelets, on fait une bonne action et c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien, mais il faut travailler sur les bons ordres de grandeur. Et ça, c'est vraiment la notion la plus importante. Et en l'occurrence, la culture génère énormément de mobilité. C'est les loisirs en France sont la troisième cause de mobilité dans les émissions de gaz à effet de serre pour les transports. Et puis voilà, encore une fois, c'est aussi le rayonnement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette responsabilité de montrer cette image? Donc voilà, c'était un peu tout ça, mais pour moi, je dis les enjeux sociaux écologiques parce qu'il y a aussi l'aspect social qui est très important.
Et j'allais le dire, ça va au-delà des questions écologiques.
Oui, c'est vrai que j'ai surnommé Biopéra pour que, voilà, tout de suite, on sache un petit peu de quoi il s'agit, mais c'est vrai que j'aurais dû rajouter Biopéra solidaire aussi.
L'un ne va pas sans l'autre.
Oui, d'une certaine manière, parce qu'en faisant ce travail, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'inégalités. On pourrait en parler longuement. Il y a eu la journée internationale du droit des femmes. Moi, je me suis rendu compte que dans la culture, il y avait de grosses problématiques à ce niveau-là. Aussi, le re-questionnement des politiques culturelles, après ces années Malraux, Lang, où on va, on se rend compte que en l'occurrence, en matière d'opéra, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, que c'est pas moi qui le dis, mais tout ce qui est un peu les enquêtes de pratiques culturelles des Français, le ministère de la Culture souligne quand même qu'il y a un Français sur deux en 2018 qui ne s'est pas rendu un spectacle vivant. Donc, et je ne parle pas des chiffres en ce qui concerne plus spécifiquement la musique classique.
Il faut
aussi se demander quel est le plafond de verre, pourquoi on n'arrive plus à progresser ou comment on va en continuer à progresser. Et pour moi, travailler sur ces enjeux sociologiques et ces détermination sociologique pour que les jeunes générations, les futures générations puissent s'émanciper et choisir d'aller ou non à l'opéra.
Alors vous évoquiez les femmes, la présence des femmes dans le secteur de la musique classique à l'instant. On va écouter un extrait de ce disque Songe que vous avez fait paraître, Sébastien Guèze, et dans lequel les femmes sont nombreuses et bien présentes. On en écoute un extrait à 8h38.
Un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar, en voz baja las
Et vous avez peut-être reconnu ce deuxième mouvement du concerto Aranjuez de Joaquin Rodrigo, ici chanté par notre invité ce matin, le ténor Sébastien Guez. Un petit mot sur ce qu'on vient d'entendre.
Alors c'est un projet qui m'a tenu énormément à cœur, dans le sens où, vous l'avez dit précédemment, il y a une majorité de femmes, notamment la présence du quatuor Zaïd, des arrangements ici de Camille Pépin.
Tout à fait.
Bon, évidemment la guitare Emmanuel Rosfelder aussi, qui est un ami. C'est un disque que j'ai voulu, vous avez pu vous apercevoir que voilà, j'essayais un peu de mener des projets qui me tenaient à cœur. Et ben ce fut le cas avec ce disque qui a pris du temps à mûrir, et puis bon, qui malheureusement est sorti juste avant le confinement, donc ça n'a pas aidé, mais bon, qui fait son petit chemin, et puis tous les gens l'écoutent petit à petit, et ça prend de l'ampleur, et je reçois de très très beaux messages, et c'est vrai que voilà, j'ai voulu un peu cet imaginaire qui traverse, qui fait le pont entre moi, ce qui m'a amené à la musique classique, un peu ces berceuses assez populaires, et puis l'univers du milieu classique. Donc voilà, j'espère que ça créera d'autres vocations.
Eh bien, on l'espère aussi, on le souhaite, bien évidemment. Sébastien Guez, je le disais il y a quelques minutes, vous êtes à l'origine de ce projet Biopéra, Génération Biopéra, dont on parle ce matin, pour donner une petite idée à nos auditeurs de l'ampleur du travail que vous avez mené. 6 mois de recherche, une centaine d'entretiens et de tables rondes, une formation responsabilité sociale des entreprises, une formation bilan carbone, des partenariats associatifs, entre autres. Il y a cette très belle citation sur la page... sur la première de couverture de votre rapport, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. C'est une citation d'Abraham Lincoln que je trouve très juste et très vraie. Pourquoi l'avoir choisie justement celle-là ?
Ben, disons qu'une fois que j'ai terminé cette première approche, on va dire, parce que c'est un travail presque perpétuel de réflexion permanente, j'ai vu apparaître cette citation et j'ai trouvé ça. Finalement, ça résumait assez bien le travail accompli, avec tous ces entretiens, tous ces échanges qui m'ont énormément enrichi aussi, parce que ça m'a enrichi en tant qu'artiste, même s'il y avait ce travail un petit peu d'imagination du futur, mais même moi, dans la manière de la vision de projeter mon art, de comment on a envie d'interpréter d'autres choses, d'autres morceaux, d'autres visions. Enfin voilà, tout ça m'a énormément nourri et je me suis dit, il va y avoir d'autres événements. On a le Covid-19, le Covid-23 peut-être, d'autres événements dramatiques. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste les bras croisés ou est-ce qu'on agit ?
On agit.
Voilà. Ou enfin, moi, j'ai pas du tout envie d'attendre le prochain choc. Voilà, j'essaye avec mes moyens et mon envie et ma sincérité. Et bon, si ça peut donner des idées, j'appelle tout le monde à me rejoindre.
À qui vous adressez-vous avec ce rapport ? Aux directrices, directeurs d'opéra, au ministère de la Culture, au Centre National de la Musique, aux artistes ?
Alors, c'est un peu général. J'avoue que pour faire ce travail, j'ai questionné les fonctionnements et assez rapidement... c'était une manière d'être plus responsable et pour agir concrètement, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler sur le territoire dans lequel la structure rayonnait. Et c'est pour ça que, assez vite, je me suis rendu compte que pour agir sur les bons ordres de grandeur, il fallait être ancré dans un territoire. Donc moi, je réside à Bordeaux, j'ai travaillé sur le territoire de Bordeaux pour essayer de construire, de développer. Mais j'ai été un peu surpris dans le sens, moi, je faisais ce projet un peu pour nourrir des réflexions plus générales et nourrir d'autres projets futurs, peut-être des partenariats, créer la première production décarbonée ou une saison qui était capable de justement de réduire ces émissions de gaz à effet de serre par 4. Je pense qu'on est capable de le faire, en tout cas, dans un temps avant 2050. Et c'est ça qu'il faut montrer à la population. Et ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de contribuer à ce travail. Évidemment, j'appelle les directeurs. Il y en a déjà qui m'ont contacté pour essayer de réfléchir à des projets. Et j'en suis très heureux. Aussi des groupes qui travaillent sur toutes ces réflexions, des artistes aussi. Donc je pense qu'on... ça va
que
amener
tous les corps
une forme de plateforme.
Peuvent...
Oui, voilà.
On va essayer. Rejoindre.
Je crois que on n'a plus le temps de juger le passé, de se poser des questions. Et il faut y aller. Voilà.
J'aime beaucoup la comparaison ou la suggestion que vous faites. Vous évoquez cet indice nutritionnel Nutri-Score peut de plus en plus voir, observer pour se renseigner sur l'impact de l'alimentation sur notre santé. Vous proposez un équivalent en quelque sorte pour le monde, pour une production d'opéra, le bio. Perascore, tout simplement.
Oui, parce que aujourd'hui, on voit bien que les citoyens s'inquiètent de plus en plus de voilà, qu'est-ce qu'ils ingèrent. Aussi les diagnostics. Moi, je pense que très prochainement, il va y avoir le carbone score sur tous les produits qu'on va acheter pour savoir concrètement quel est le coût écologique d'un bien qu'on achète qui a traversé, qui a été fabriqué de l'autre côté de la planète. Il ne s'agit pas de se laver les mains en disant en France, on n'émet pas d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais bon, on le fait faire dans les autres pays, on l'importe, donc c'est pas mieux. Notre responsabilité, elle est là. Et je pense que ça pourrait être un signal fort que justement la culture, et même en tant que citoyen, un auditeur, après cette crise, puisse se dire « je vais aller voir un spectacle, mais j'ai envie d'aller voir un spectacle qui s'ouvre au monde, bien évidemment, mais sans le mettre...
Sans le mettre en danger. Effectivement, voilà. Est-ce que le public voudra encore continuer à avoir des œuvres dont la création est destructrice? C'est ce que vous écrivez,
tout à fait.
Sébastien Guèze. Une version publique sera disponible, on l'espère, d'ici l'été. Sébastien Guèze de Biopéra, Génération Biopéra. En attendant, chers auditeurs, vous pouvez aller faire un tour sur le site de Sébastien Guèze, www.sébastienguèze.com, pour vous tenir informé de ce projet et puis des productions à venir. On aura le plaisir de vous entendre en Espagne, à l'Opéra de Séville. Quelle merveille.
Et oui, Carmen Don José, oui, enfin.
Oh là là, je suis jalouse. Ça fait rêver. Merci beaucoup, Sébastien Guèze, d'avoir été des nôtres. Et à très bientôt sur France Musique.
Merci.
Un court extrait, deuxième extrait de ce disque Songe du ténor Sébastien Guèze qui était notre invité ce matin sur France Musique. Il est 8h50.
Chère auditrice, chère auditeur, chère auditrice, chère auditeur.
Et c'est l'heure de la chronique de Christophe Chassol. Bonjour.
Eh bien bonjour,
mon cher
Christophe.
Christophe.
Ça va bien ?
Mais ça va super, et vous ?
Moi ça va pas mal. Écoutez, je pensais à ce concept qu'est la basse.
Ah, vous voyez, voilà, très bon concept.
Bien. Ouais, j'aime bien, c'est comme une racine.
C'est voilà. Pas faux.
Et puis, y a un bassiste qui a beaucoup influencé beaucoup de monde, là, qui nous a quittés le 18 mars. Il s'appelle Paul Jackson. On va écouter quelques lignes de basse. Bon, ça, vous connaissez.
J'adore ce morceau.
Oui. Vous savez qui souffle dans des bouteilles de bière, là ?
C'est Herbie Hancock.
C'est pas lui.
C'est pas lui. Raté.
C'est son album Headhunters. Mais
c'est ça.
C'est Bill Summers qui souffle dans des bouteilles de bière pour imiter.
Mais il souffle merveilleusement bien.
Ouais, il imite des pygmées du Zaïre. Ouais. Ça sort en 73, Headhunters, et il y a une ligne de basse de la mort qui va arriver là. Écoutez-moi ça. Je vais faire écouter à quel point c'est gras cette ligne de basse. Écoutez-moi ça. Mi fa. Sol, sol, la. Mi fa. Mi fa. Mi fa. Sol, sol, la. Là, on est en 73, c'est l'album de Herbie Hancock, Headhunters, qui va se vendre à des millions d'exemplaires. Un des albums de jazz les plus vendus. Hein. C'est du jazz funk, on va dire, un petit peu.
Oui, c'est
ça. Voilà, c'est Herbie Hancock qu'on a un petit peu marre de faire des choses trop cosmiques et qui va un peu se rapprocher de choses populaires et faciles à écouter. Donc, ce morceau s'appelle Watermelon Man. Et on a entendu à la basse Paul Jackson. Donc Paul Jackson, il est hyper important dans la musique de Herbie Hancock à ce moment-là, en 70. Il a des lignes de basse grasses, il a des paluches, mais énormes. Il joue, mais il est assis. Si vous comparez la basse à, ou en tout cas la musique à un édifice, une maison, là où vous habitez, on va dire que la basse, ça va être un peu la charpente, hein, ça va être ça. Bon, la batterie, c'est, ça donne la, la mesure de, ça donne le, disons le, la métrique. Mais la basse, ça va être la, la charpente, c'est en bois, c'est en quoi. Et là, moi, je trouve qu'elles sont tellement belles, tellement grasses, tellement puissantes. Ça, c'est des lignes de basse qui ont influencé beaucoup, beaucoup de gens du jazz. Donc, on va continuer avec une autre ligne de basse qui est sur un album de 75, je crois, Frost, non, de 74, qui est un album d'Hancock, toujours avec les Headhunters. Et c'est le morceau s'appelle Actual Proof, il a été très, très souvent joué. On écoute la ligne de basse. Famille de l'homme, voilà. Bon, bref, ça c'est très connu hein, pour les gens, pour les gens du jazz. Voilà, c'est on appelait ça même du sophistifunk.
Du sophistifunk, ouais, ça j'avais jamais entendu. Tiens.
Et donc il y a cette paire Mike Clark et Paul Jackson, donc le regretté Paul Jackson qui basse batterie vraiment qui était, mais comme les je sais pas, ça se dit les deux doigts de la main, je sais pas, mais bon, enfin voilà. C'est vraiment du jazz, de la funk, vraiment très très sophistiqué, avec des grilles d'accords très riches, assez complexes et tout. Mais disons que la basse, oui, bah j'essaie d'aller vite, Saskia, mais c'est pas facile. Bon, allez, je vous fais écouter une autre ligne de basse. Et je vous la chante avant, c'est un morceau qui s'appelle Descending As Is You, et c'est sur le second album des Headhunters, donc avec Paul Jackson à la basse. Et la ligne de basse, là, elle fait... Ré mi la, mi la, mi la, si, si, do. Ré mi la, mi la, mi la, si, si, do. Ré mi la. Ouais, essayez de capter le rapport entre basse et kick. Ré mi la, mi la, mi la, si, si, do. Ré mi la, mi la, si, si, do. Ré mi la. Ouh. Les mesures composées, en veux-tu, n'en voilà. Ré mi la mi la mi la si si do. Ré mi la mi la mi la si si do. Ré mi la mi la mi la si si do.
Vous avez un autre extrait pour nous.
Oui, j'ai un autre extrait. En fait, j'en ai même plusieurs, mais bon, on va aller vite. Je vais vous faire un morceau qui s'appelle Here and Now, qui est sur le premier album des Headhunters, qui s'appelle Survival of the Fittest, survie du plus adapté. Écoutez-moi ça. Ça fait la la si. Si là, ah oui, il me l'a balancé avant. Je voudrais juste la chanter juste avant pour que les auditeurs puissent la reconnaître ensuite. Ça fait la, la, si, si, la, 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 si, 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 do, ré, mi, la, la, si, si, la, si, 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 do, ré, mi. On écoute. Écoutez comment elle se place dans les interstices. En fait, la basse est le morceau. C'est autour de la basse que se construisent tous les autres éléments qui arrivent. Écoutez comment elle se place à l'intérieur. La, la, si, si, la, la, si, si, do, ré, mi, la, la, si, si, la, la, si, si, do, la, la, si, si, la, la, si, si, do, ré, mi, la, la, si, si, la. Et vite fait, on va écouter le thème qui se loge là-dessus. C'est dans l'extrait d'ensuite, ensuite. La si, si, la, 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 si, 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 do, ré, mi, la.
Ça doit être dur à jouer. Cosmique. Quand même. Hein.
C'est dur à jouer et en même temps, ils n'ont pas l'air d'être en lutte. Hein, dans le
non, genre. Pas du tout, c'est vrai, quand on voit son visage.
J'avais God Make Me Funky comme dernier extrait, c'est quand ils vont à l'église. Ils n'écoutent pas ce que le preacher sait, mais ils sont. God, le Dieu, les a fait rendus funky. On écoute. Très très connu ce morceau, très samplé, c'est les Headhunters encore, donc Survival of the Fittest. God Made Me Funky. Et la ligne de basse, faut la mériter. Hein. Elle arrive, mais faut la mériter.
Ah, oh, mais merci Christophe pour cet hommage à ce grand musicien Paul Jackson, légendaire bassiste qu'on écoutait ce matin avec vous. Chronique à réécouter sur francemusique.fr. La basse arrive.
Voilà. La sirène.
Mais je trouve que c'est un excellent, excellent, excellent morceau pour vous dire au revoir, chers auditeurs. Pour dire bonjour à Gabriel Oliver Aguillon, surtout. Bonjour Gabriel.
Bonjour Saskia, bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
France Musique est à vous. Oui, c'est,
oh
c'est
moi. Il fallait se louper quand même.
C'est ça quoi. Vous imaginez, ça fait 4 ans qu'on collabore et on ne connaît toujours pas mon visage. ce sera dans un instant France Musique est à vous, évidemment. Le temps de donner le résultat de notre concours. Quelle est la nationalité de Sonia Yoncheva? Est-elle bulgare, belge ou coréenne? Bah, belge, évidemment.
Voilà, c'est une citoyenne du monde.
Exactement, soprano bulgare et artiste sans frontières, comme me l'écrivait un auditeur ou une auditrice il n'y a pas si longtemps. Eh bien, les gagnants seront recontactés par email pour recevoir ce disque Rebirth qui vient de paraître chez Sony. Merci à Marie-Ferdinand, Félix Levaché, Jean, Frédéric et Eric Carrère. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite une très, très belle journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.